France Musique.
France Musique. Vous allez l'adorer.
Nelson Frère nous a quittés dans la nuit de dimanche à lundi à son domicile de Rio de Janeiro. Le pianiste brésilien avait 77 ans. Hommage ce matin sur France Musique à cet immense musicien. Nous sommes en ligne avec l'un de ses amis proches, journaliste et critique au mensuel Classica, la revue Pianiste et aussi de Backtrack. Bonjour Alain Lempêche.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci d'être avec nous. Je sais combien vous étiez proche et combien vous êtes affecté ce matin. D'abord, avec vos mots, que représentait Nelson Frère pour vous?
Ah ben, pour moi, au-delà du musicien, c'était un ami très très proche. C'était quelqu'un que j'avais connu il y a 40 ans et on était, comment dirais-je, ça a été un coup de foudre amical tout de suite. Et c'était un ami très très cher et c'était quelqu'un de très exigeant aussi en amitié, comme il était très exigeant avec lui-même quand il s'agissait de musique. Vous savez, toute sa vie était organisée autour de la musique. Rien d'autre ne pouvait le distraire. Tout était organisé à Rio pour que rien ne puisse le distraire. C'était quelqu'un de croyant. Il pensait qu'il avait reçu un don et qu'il devait absolument tout mettre en œuvre pour que ce don s'exprime. Ce don, c'était la musique. Donc, c'est quelqu'un qui voyait très peu de monde. Il savait s'amuser aussi, hein, mais la journée était sacrée. Il travaillait au piano ou pas. Parce qu'en fait, il pensait tout le temps à la musique, tout le temps. Quand on parlait avec lui, on voyait bien qu'une partie de lui-même était très présente avec son interlocuteur, mais que dans le même temps, une partie de lui-même était occupée à autre chose. Et on s'en rendait compte parfois parce que il chantonnait toujours. Comme d'ailleurs, il chantait toujours au piano.
Vous avez dit hier à francemusique.fr l'article qui lui consacrait. Vous avez appris à écouter les disques autrement avec lui, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que Nelson, frère, adorait écouter les autres. Il adorait mettre des disques, écouter la radio, des enregistrements que des pianistes lui envoyaient. Vous savez, parmi les musiciens, il y a comme ça tout un réseau d'enregistrements pirates qui circulent depuis très longtemps, depuis bien avant le CD, et des cassettes autrefois. Et il adorait écouter les autres, les jeunes musiciens, par exemple, beaucoup. Et donc, chez lui, il faisait très souvent des séances d'enregistrement. Il mettait qui c'est quoi? Il fallait deviner, vous savez. Et puis alors, quand on écoutait avec lui, il dit, tu penses quoi? Alors on disait, non, mais écoute bien. Et donc, si vous voulez, oui, il avait une écoute intérieure. Et moi, il m'a appris, effectivement, à écouter la musique en général et le piano et les pianistes en particulier d'une autre façon. Et toujours bienveillante. En essayant toujours d'être bienveillant. C'est quelqu'un qui ne disait jamais de mal des autres musiciens. Qui n'avait absolument aucune jalousie. Jamais. Je l'ai connu à un moment aussi où sa carrière était un peu moins bonne qu'elle l'a été, mais largement en partie à cause de sa faute, parce qu'il ne voulait absolument faire aucune concession et aucun effort. Mais même à ce moment-là, vous voyez, il n'était pas jaloux des autres, jamais. Au contraire, il se réjouissait toujours du succès des autres.
Il a été reconnu assez tardivement, en tout cas, il a enregistré assez tard pour une grande maison de disques. Deka, il avait un rapport compliqué avec l'enregistrement.
Il a commencé très tôt, au contraire, parce que dès qu'il avait 23 ans, il avait un contrat d'exclusivité chez Sony. Mm-hmm. Il a fait des disques avec Rudolf Kempe, des grandes tournées avec Kempe. Il a enregistré Sonate de Nice, Sonate en fa mineur de Brahms, Carnaval de Schumann, Prélude de Chopin qui ont eu le prix Edison en 1972. Il a reçu des grands prix. Non, mais
il y a eu un creux dans sa carrière ensuite.
Oui, c'est-à-dire que les maisons de disques ont voulu lui faire faire aussi parfois des choses qu'il n'avait pas envie de faire. Et comme il n'était pas du genre à présenter des projets, à faire des choses comme ça, petit à petit, il s'est un peu détaché de tout ça. Et puis, il a fait des disques chez Teldec aussi, en Allemagne. Et puis, ils ont sorti un disque dont il aurait préféré qu'il ne sorte pas sans trop lui demander son avis. Et donc, il a dit, il ne ferait plus de disque. Et puis assez tardivement, effectivement, Decca est revenu à la charge. Et là, il a accepté. Et puis les choses se sont merveilleusement bien passées avec cet éditeur britannique.
Vous dites qu'il ne disait jamais de mal des autres et qu'il écoutait beaucoup les autres pianistes, mais oui. Nelson Frère, Alain Lampèche, était aussi un musicien, et on s'en rend compte à nouveau depuis hier, depuis les hommages, un musicien très aimé des autres musiciens. Pourquoi, selon vous ?
Écoutez, hier, Nathanaël Gouin, qui ne le connaît pas personnellement, m'a écrit un petit mot, et dans lequel il me dit qu'avec une seule note, Nelson Frère pouvait les emmener très loin. C'est-à-dire qu'il y avait dans son jeu un mélange très mystérieux d'une virtuosité absolument phénoménale. Très peu de pianistes ont eu une telle maîtrise du clavier, qui n'a pas grand-chose à voir. Enfin, c'est compliqué. Il y a la virtuosité d'un côté, ce qui vous permet de jouer très vite, sans faire de fausses notes, d'une façon admirable. Mais il y a aussi autre chose, qui est la maîtrise du clavier, c'est-à-dire la sonorité. C'est-à-dire faire chanter, c'est-à-dire avoir une compréhension intime de l'instrument et de faire entrer la musique dans l'instrument et de l'instrument la faire jaillir vers le public. Et Nelson Frère avait cette chose-là très mystérieuse que quelques très très grands pianistes ont. Nikolaï Luganski hier m'a écrit en me disant que pour lui, Nelson Frère était un des plus grands talents de musicien depuis 80 ans. Et il dit, en plus, une âme admirable. C'était tout ça, Nelson Frère. Tout ça passait dans son jeu. C'était quelqu'un qui ne se mettait jamais, lui, en avant. Jamais. Tout son travail, disait-il, ce que je l'ai entendu répéter pendant des heures et des heures et des heures et des jours, la sonate opus 111, avant d'oser la jouer en public. Or, cette sonate, il la jouait déjà depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire qu'il l'aurait joué sans retravailler, que ce qu'il aurait fait en public aurait déjà été absolument admirable. Mais pour lui, non. Il fallait qu'il réussisse à la manger, comme il disait, à se faire manger aussi par l'œuvre, pour pouvoir être totalement libre, pour que la musique puisse naître au monde. Et tout son travail était de travailler, pas seulement sur le plan technique, sur le plan spirituel aussi, pour que la musique se ressouvienne, comme disait Yves Nat, pour que lui-même disparaisse, tout en étant parfaitement agissant, c'est là le grand paradoxe, mais pour qu'on l'oublie lui, et qu'on n'entende que la musique. Donc, vous savez, c'était pas un pianiste qui faisait des effets, c'était pas un pianiste à idées, non, c'était quelqu'un qui avait une lecture extraordinairement analytique des textes, quand bien même il ne voulait pas en parler, de cet aspect-là. Ce qui donnait l'impression, beaucoup de gens pensent qu'il était instinctif, mon œil, c'est quelqu'un qui analysait les partitions d'une façon extraordinairement pointue, qui en connaissait chaque note, chaque soupir, et qui savait quelle était la place dans le développement organique de chaque détail, de moindre chose. C'était même, on peut dire, à sa façon, un intello. Mais il ne voulait pas en parler, qu'exceptionnellement, il en parlait.
Merci. Merci beaucoup, Alain Lampèche.
De rien, je vous en prie.
Pour cet hommage ce matin à ce grand frère. C'est le titre du très beau portrait que vous aviez consacré il y a quelques années avec votre ami dans la revue Pianiste. On vous lit aussi dans Classica et sur backtrack.com. Alain, je vous ai demandé de choisir une courte pièce pour se quitter. Vous avez choisi cette Valsada d'or d'Hector Villa-Lobos. Merci.
Oui. De rien. Bonne journée.
Bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.